France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Un Benoît ravi de vous retrouver pour cette rentrée en deux temps, de 11h à midi. Mon invité, Gilbert Montagnier, qui fête les 50 ans de son premier succès, The Fool. Une occasion d'évoquer son histoire de musicien, commencée dans l'ombre de Gaston Litaize et de Ray Charles. Une histoire empreinte surtout d'un goût de la vie et d'un sourire qui nous font du bien. On va s'aimer avec Gilbert Montagnier dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, de midi à midi et demi, programme choisi de musique légère. Mais d'abord, saluons la merveilleuse artiste qui va faire officiellement son entrée au Panthéon.
Cet ami charmant fait pour les amants, nous le partagerons ensemble. Partons tous les deux, puisque fatigue l'amour nous y attend. Ensemble, le silence sonne, l'on n'y voit personne, jamais, jamais. Cet ami charmant fait pour les amants, l'amour nous y attend ensemble. Que j'aimerais partir un jour quand le soleil sourit, pour un voyage hélas trop court, seul avec vous chérie. Je connais bien l'endroit rêvé, qu'on y serait comme des rois. Il ne faudrait pour s'y trouver que le temps de compter toi, un, deux, trois.
Allô, la gare? Oui, oui, ici le petit hôtel. Deux voyageurs. Bien, je les attends. Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Madame et monsieur sont sans doute mariés. Jeune marié. Chasseur, montrez le numéro 5, voulez-vous?
Le silence y est complet, seul une cloche sonne. L'on n'y voit personne, jamais, jamais. Cet ami charmant fait pour les amants, et quand le soir descend, cœur blotti, cœur contre cœur, nous bénirons notre bonheur ensemble, ensemble, ensemble.
C'est un nid charmant. C'était Joséphine Baker en 1937 avec l'orchestre de Valberg. Joséphine qui entre donc au Panthéon, et je trouve ça merveilleux parce qu'avec elle, c'est aussi le music hall tout entier qui est célébré d'une certaine façon par notre République. Bonjour Gilbert Montagnier.
Bonjour Benoît, quelle merveille.
C'est
quel
vrai,
voyage
ça vous plaît,
vous m'avez fait faire là.
Joséphine.
Oh ben écoutez, évidemment, ouais. Moi j'imaginais le studio, puisque évidemment tout le monde jouait en même
à
temps.
À l'époque, oui, bien sûr, et ce bel orchestre.
Et puis la petite sonnette qu'on entend aussi quand il... C'est extraordinaire. Et puis, toute la poésie et la magie qu'elle avait dans sa voix.
Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est drôle, Joséphine Baker, elle a été la grande vedette du Casino de Paris et des Folies Bergères. C'est une scène que vous connaissez
c'est
bien,
vrai, c'est vrai, imaginez. C'est vrai, j'aurais pu penser à ça quand j'étais aux Folies. J'ai pas pensé à la Joséphine. Et je pense, moi, à l'aspect humain de tout ça. C'est-à-dire que... Quand même, elle a eu beaucoup de misère à la fin, je pense, qu'elle a eu beaucoup de problèmes.
Oui, financiers.
Ça fait de la peine, parce que quelqu'un qui a représenté tellement pour le patrimoine culturel, ils lui ont rendu la monnaie de la pièce, comme on disait à Ménilmontant, parce que bon, maintenant, on l'a fait entrer au Panthéon, c'est ça?
Oui.
Ça me fait penser à une autre anecdote, si je puis rapidement vous dire ça. J'ai eu grand plaisir de déjeuner avec Arletty, trois semaines à peu près avant qu'elle ne disparaisse.
Oui.
Et elle m'avait fait part de sa grande déception au sujet de la culture qu'il avait laissé tomber, quoi. Ah oui. Ce que je veux dire.
Il se sentait un peu à l'abandon.
Ah, mais complètement. Ouais, ouais. Complètement. Puis alors, elle était devenue non-voyante, elle avait assez mal pris, elle, parce que évidemment, ça survenait, oui, tard dans la vie. Mais écoutez, je suis vraiment ravi d'être là.
Et ben, nous aussi.
Parce que la musique, c'est la musique.
Nous aussi, Gilbert Montagnier, on est très, très heureux que vous soyez là aujourd'hui avec nous sur France Musique, à l'occasion donc du 50e anniversaire de la sortie de The Fool.
Et oui, c'est vrai.
Du plaisir de réécouter cette merveille, Gilbert Montagnier. The Fool, l'imbécile, hein, c'est ça que vous...
Ouais, ouais, l'idiot, l'imbécile, c'est ça. Ne voilà. Me fais pas jouer l'imbécile.
Un enregistrement donc de 1971, il y a 50 ans, vous aviez 19 ans. Et ça, c'est la version donc, qui vient de ressortir avec tout l'album d'origine remasterisé. Hein.
Oui, et c'est vrai que ça m'a donné l'occasion de réécouter l'album, sincèrement, parce que comme je vous le disais hors antenne, j'écoute pas mes disques, moi, une fois que je l'ai fait. Non, je le fais. Et je me revoyais là... pendant la séance d'enregistrement. C'était un lundi après-midi, je sais que
à Londres.
Oui, à Londres, oui. Avec toute l'équipe de d'Elton John, il y avait un Paul Buckmaster, c'est pas lui qui l'arrangeait, mais il y avait tous ses musiciens, toute la régie de cordes.
Ah oui.
Et puis le batteur, guitariste et tout ça, c'était toute son équipe. Et puis moi j'étais au piano et mais imaginez comment je me sentais, moi, avec tous ces mecs-là qui avaient vraiment beaucoup plus d'expérience.
Beaucoup de métier,
mais enfin, ça m'avait pas du tout intimidé. Hein. Je jouais, et puis voilà.
Alors, vous l'avez enregistré à Londres, et puis il y a eu une autre phase après, chez Michel Magne, à Hérouville, dans
oui,
son fameux studio, très célèbre.
Studio. Hein. On parlait souvent du fantôme de Chopin, qui, paraît-il, venait la nuit...
Ah oui.
Oui, le piano jouait. Moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Mais il y en a qui disaient qu'on entendait le piano, oui, qui jouait tout seul, ça.
Voilà. Et cette chanson, donc, et cet album, vous ont lancé d'une façon très, très importante. Hein. Le titre a été, je crois, numéro un dans une dizaine de pays à travers le monde.
Ouais, hein. 11 ou 12, je sais plus. Mais quand vous parlez du château de Rouville, c'est vrai que Elton John est venu enregistrer aussi là-bas.
Ah oui.
Il a fait son album Hanky Château. Mais vous savez, quand je suis revenu avec le disque souple, parce qu'à l'époque, on avait quelque chose qui s'appelait un disque souple.
Un souffle en sortant de studio. Hein, c'est ça,
on pouvait l'écouter 5-6 fois, puis après, il n'y avait plus de matière, donc on ne pouvait plus l'écouter.
Ah oui, c'est ça.
Alors, je l'ai mis dans le café du coin, à Ménilmontant. Je n'étais pas du tout convaincu que ça ferait un hit, hein, un succès.
Ouais.
Parce que j'avais eu une expérience douloureuse 2-3 ans avant.
Ouais, ouais.
Donc, je me disais, si ça se trouve, on n'entendra jamais. Et puis un jour, un jour, je l'ai entendu
à la radio.
Oui, dans l'émission de José Arthur, Pop Club.
Ah oui.
Et imaginez, j'étais avec mon petit transistor à l'oreille, et dans le mi-sommeil, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, je connais ça. Attends, ah, mais c'est la mienne. Ah, ouais. C'est beau, vous savez, quand c'est la première fois comme ça, c'est extraordinaire.
Alors, Gilbert Montagnier, évidemment, vous avez donc, pour l'anniversaire, voulu, et on en est ravis, rééditer cet album, ouais, avec un son encore plus beau que celui d'origine, mais vous avez aussi ajouté quelques bonus, et en particulier donc une nouvelle version,
oui,
de The Fool in Love. On va écouter, mais c'est tellement différent du premier, je veux que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous avez voulu.
J'ai eu envie de reprendre exactement la même mélodie, oui, qui est la mienne, oui, les mêmes textes, mais avec une petite sauce à ma façon, à moi de maintenant.
Voilà.
Et moi j'aime bien aussi ça, c'est différent.
Ça, c'est la nouvelle version, donc The Fool in Love, qu'on va découvrir dans cet album, Gilbert Montagnier. Alors, expliquez-nous un peu musicalement, techniquement, poétiquement, comment c'est fait.
D'abord, je veux renouveler ma pensée. Si je ne le dis pas, je ne vais pas être content avec moi. Donc, je suis vraiment ravi d'être là. Je passe un bon moment avec vous.
Moi aussi.
En fait, ça a commencé à la maison.
Oui.
Moi, j'ai fait une bonne partie de la trame à la maison.
Vous voulez dire que vous utilisez les machines comme,
oui,
tout le monde fait aujourd'hui, quoi.
Ouais, absolument.
Voilà.
Et c'est génial quand même de pouvoir, ouais, faire maintenant beaucoup de choses avec ses petites mains. Et justement, alors, puisqu'on est entre nous, je suis en train de me former sur un logiciel que tout le monde utilise en studio, qui s'appelle Logic Audio. Ouais. Et auparavant, on n'avait pas accès, nous les non-voyants, à ça, parce qu'il y avait trop de graphismes et tout ça, donc on ne pouvait pas. Mais là, maintenant, il y a un mec qui a énormément de talent, et qui a fait une interface où on peut avoir accès. Parce qu'en fait, nous, les aveugles, on fonctionne tout au raccourci clavier,
oui,
vous voyez,
oui.
C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de la souris,
oui,
mais on a des raccourcis clavier pour tout, et c'est génial, vraiment. Enfin, j'apprends.
Ce qui nous vaut donc cette version...
plus funky.
Funky, on
ouais,
va dire.
Un
oui,
peu
c'est
plus
ça.
Funky. Ouais,
presque
ouais,
un peu techno, même.
Ouais, un peu plus funky, c'est
funky,
vrai.
Allez.
Et quand je pense à Frankie, je pense à rien à voir, mais à l'inondation qu'il y a eu il y a deux jours à New York.
Oui.
Parce que, vous savez, le mot funky, c'est pas simplement de la musique. Funky, c'est quand vous passez dans un quartier où c'est pas, par exemple, très propre, hein, ça peut arriver, un parterre, on dit, oh, it's funky here.
Oui, bien sûr. C'est même une chanson de James Brown, d'ailleurs.
Yeah.
It's too funky here.
Ah, le Benoît, il en connaît des trucs.
Non, j'aime James.
Ah ouais, bien sûr.
Alors donc, nous étions là à New York à l'instant avec vous sous la pluie, Gilbert Montagnier, mais
oui,
puisque vous nous faites le plaisir de venir aussi nous raconter un peu votre histoire aujourd'hui sur,
oui,
France Musique, on va revenir tout de suite à Paris avec cette chanson, jolie chanson, qui va nous ramener au temps de votre enfance dans le quartier de, je laisse le dire lui-même.
Ah. Mais oui,
madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la midinette, chez sa dinette au bistrot, la biblette, lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte, qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant.
Ménilmontant, c'est là que vous avez vu le jour et grandi, Gilbert Montagnier.
Oui.
Et 70 ans après, vous êtes à la Bastille, vous n'avez pas beaucoup bougé. Hein.
Non, finalement, c'est vrai.
Vous êtes un vrai Parisien.
Eh oui, mais ouais. Ménilmontant, c'est un quartier, plus je vais dans ma vie, ouais. qui me tient à cœur beaucoup. Ouais. Quoi. Ouais. C'est un quartier où on n'avait rien, mais on avait tout. Ouais. On n'enviait pas la voiture du voisin parce qu'il n'en avait pas, de toute façon. Moi, dans tout mon immeuble, là, il n'y avait personne qui avait une bagnole.
Voilà. C'est le vrai Paris populaire.
Hein, ah ben oui, mais on pouvait aller frapper. Moi, j'avais beaucoup de chance parce qu'il y avait 3 appartements sur le palier. Et les 2 autres appartements, je pouvais y aller n'importe quand.
Ah oui.
Et j'y allais souvent, partout. Dès l'âge de 4-5 ans, mes voisins charmants. Je me rappelle toujours de Monsieur Chanteau.
Ah oui.
Monsieur Chanteau qui chantait beaucoup d'ailleurs. C'est vrai, il aurait chanté Le Temps des Cerises et tout ça. Ah oui. Et puis, il avait notamment une collection de papillons. Ah oui. Et... Vous voyez, Benoît, ces gens-là, ils n'avaient pas le bouquin livré avec. Comment on fait avec un enfant non-voyant? Ouais. Ben, ils étaient naturels, c'est tout.
Ah oui,
c'est alors, vrai. Il ouvrait sa boîte, sa grande boîte, avec tous les papillons, pour que je puisse les toucher, pour que je puisse savoir ce que c'est qu'un papillon.
Vous parlez d'ailleurs très très joliment du toucher, justement, et oui. puis de votre enfance dans ce livre qui est paru il y a 3 ans, Au jardin de ma vie, hein, oui. qui est un livre, on pourrait dire, presque... Même pas sur vos premières années, presque sur vos premiers jours,
oh oui.
vos premières sensations,
oh, absolument.
Votre naissance, l'accident qui, après votre naissance, un petit peu après, vous a donc fait perdre la vue.
En, hein. même temps, hein. en même temps.
Enfin oui, juste...
Parce qu'en couveuse...
Voilà, en couveuse, parce que vous étiez très prématuré.
Oui, à 5 mois et demi.
Et puis l'intervention de personnages fort sympathiques. Je le dis, tiens, ça pour les mélomanes, comme le professeur Minkowski, le père de Marc Minkowski, qui a rassuré vos parents d'une certaine façon.
Ah, mais il a été extraordinaire, hein. parce que là aussi, dans le monde médical, oui. ça, le pronostic sur la situation de handicap d'un enfant envers les parents est très important.
Ouais.
Si vous avez un mec qui pense que bah, il est fini, alors il va dire « écoutez, vous ferez ce que vous pourrez hein, ». Mais lui, non. Il a dit à mes parents, enfin, maman, vous pleurez aujourd'hui, eh bien, vous verrez, vous viendrez me remercier. Et ouais. j'ai pu le faire, moi. Voilà. Imaginez.
Et puis, vous racontez aussi, parmi beaucoup d'autres petites choses de la vie quotidienne, comment votre père, un jour, sans prévenir le propriétaire, d'ailleurs, a cassé la cheminée pour vous installer un piano.
Ben oui, parce que Benoît, c'était un appartement de 43 mètres carrés, on était 4 enfants, donc on était 6 au total. Voilà. Et il n'y avait qu'une seule place où le piano droit pouvait entrer, c'était de casser la cheminée.
Ouais.
Et à coup de masse, il a cassé la cheminée, et sans ascenseur, ils ont descendu les sacs de gravats, et puis on a pu monter le piano, pas avec des déménageurs parce qu'on n'avait pas l'argent pour ça, mais c'était mon père, mon frère qui ont pris ça sur le dos.
Ouais.
Et en fait, quand on est môme comme ça, on ne se rend pas compte du cadeau qu'on vous fait. Je veux dire, ils m'ont vraiment ouvert la porte au possible, mes parents.
Ouais.
Et c'est pour ça que je suis bâti comme ça, parce que j'ai toujours cru au possible.
Ouais.
Et, et le piano, je m'en rappelle très bien, c'était avec un grand piano droit d'antan, quoi, avec les bougeoirs.
Avec les bougeoirs de chaque côté.
Qui n'était jamais juste, parce que c'était
un cadre en bois.
Voilà.
Bien sûr.
Et ouais. Mais quelle beauté.
Mais votre livre, en tout cas, Au jardin de ma vie, évoque tout ça très très joliment. Et puis alors, vous êtes entré notamment à l'Institut des jeunes aveugles,
ouais.
Boulevard des Invalides.
Ça m'a toujours fait marrer, ça. Ouais. L'Institut des jeunes aveugles, Boulevard des Invalides, ça m'amuse.
Oui, voilà. C'est vrai que moi, j'avais même pas pensé. Et là, il y avait une chorale aussi.
Bien sûr.
Alors, on n'a pas retrouvé, malheureusement. Ah. Il semblerait que sur France Musique, même des concerts aient été diffusés avec la chorale à laquelle vous participiez à l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est un souvenir important pour vous aussi.
Ah, mais énorme, ouais. Parce que dans cette école, il y avait un très bon département de musique.
Voilà,
moi, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, et je suis arrivé dans cette école, dans cet institut, à l'âge de 9 ans et demi, à peu près 10 ans. Et on faisait du chant grégorien, évidemment sur partition, très sérieux, avec des maîtres d'orgue comme Gaston Litaise, Jean Langlais, qui sont des pointures. Vous pouvez regarder.
Oh oui, je les admire beaucoup, bien sûr.
Et eux étaient de cette école-là. Et on avait de très belles grandes orgues. Et nous enregistrions les messes pour France Musique.
Wow,
absolument. Bien. Et j'ai fait ça.
Voilà. Et alors, pour évoquer d'ailleurs justement cette époque et ces grands musiciens qui ont quand même compté dans votre enfance, j'ai retrouvé ce petit morceau de Jean-Sébastien Bach, interprété justement par Gaston Litaise.
Okay. Merci.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et la première musique que j'ai composée, j'avais à peu près 12 ans.
Mais ça donnait quoi? Vous pouvez nous la pianoter là?
Je crois que je me rappelle un peu, quoi. Ça faisait...
Vous aviez déjà suivi des leçons de piano, ce n'était pas naturel chez vous, ce don.
Non, j'ai commencé à apprendre le piano à l'âge de 5 ans.
Et voilà, ça c'était encore il y a exactement 70 ans. Gilbert Montagné, c'est le plus vieux document que j'ai retrouvé dans nos archives.
Merci.
C'est une émission interactualité, le journal. Vous venez de connaître le succès de The Fool. Vous êtes interviewé apparemment chez bien Yves Mourosi,
on dirait. Absolument, hein, voilà. C'est lui.
Et vous nous jouez votre premier petit morceau d'enfant au piano.
On avait fait ça, on a présenté ça à l'Arbre de Noël.
Voilà.
Vous me ramenez vraiment dans des émotions incroyables. Et c'est vrai que dans cet Institut National des Jeunes Aveugles, à l'époque, il y avait des paradoxes. Parce qu'il y avait un très bon département musical, comme je vous le disais. On étudiait plusieurs heures par jour. Mais il y avait tout à côté étroit d'esprit, je dirais même assez répressif.
Ah oui, oui.
Oui, oui, oui. Dans le sens où on était avec les filles, mais seulement en classe, pas dans la récréation, pas au réfectoire, pas rien.
Ouais.
Donc je trouvais ça nul, mais enfin on s'arrangeait bien pour aller de l'autre côté quand même. Parce qu'elles avaient, il y avait deux ailes de bâtiments et il fallait passer par la chapelle pour aller, comme une frontière. Et vous aviez des surveillantes qui épiaient, vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même assez... Et là, ce qu'on vient d'entendre avec Gaston Litaise...
Ce jour qui est si riche en joie, c'est le nom français de ce choral de Bach. Hein.
C'était dans la grande salle, la salle André Marchal, qui s'appelle comme ça,
à
l'Institut National de Jeunes Aveugles, où on avait des très belles orgues. Et comme ça jouxtait la chapelle, il y avait toujours des odeurs d'encens très fortes. Moi, j'aimais bien.
Alors, vous avez utilisé le mot aveugle, le mot non-voyant, il y a aussi le mot handicapé, tous ces mots. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces questions de vocabulaire à propos de la cécité?
Moi, j'étais un ardent défenseur au tout début d'utiliser le mot non-voyant.
Ouais.
Alors, j'ai eu beaucoup de reproches. Pourquoi tu n'utilises pas aveugle? T'as un problème avec ça? Non, c'est pas ça, mais c'est que moi, j'ai jamais été aveuglé par quoi que ce soit. Quoi, je veux dire. Donc, pour moi, je trouvais que c'était... Bon, maintenant, je dis les deux. Je dis, je dis même un troisième, je dis aveugle. Voilà, comme aurait dit Coluche.
Exactement.
Comme ça, ça résout tout. Et la cécité. La cécité la plus grave est la cécité de l'esprit.
Oui.
Faut quand même pas oublier ça. Moi, évidemment, c'est une situation particulière dans le sens où je n'ai jamais vu avec mes yeux. Donc, ça ne me manque absolument pas.
Voilà.
Et il faut toujours que je sois très humble et attentionné auprès de la majorité des gens qui ont perdu la vue, qui, eux, ont énormément de mérite, parce qu'ils ont dû s'adapter. Ils ont dû s'adapter à une situation. Moi, on s'était livré avec, vraiment, alors j'ai eu aucun problème. Hein.
Vous le dites d'ailleurs là encore dans votre dernier livre, « Je n'ai jamais vécu ma cécité comme un handicap. Non, je ne rêve pas de voir comme vous les voyants, car je vois comme moi un non-voyant. »
Exactement.
Très résumé.
Ben oui, et ça me va très bien, dans le sens où... Non, j'ai jamais vécu ma cécité comme un handicap. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais moi, je l'ai toujours vécu ainsi. C'est une situation particulière, certes.
Ouais.
Mais Benoît, on est tous différents et importants.
Bien sûr.
On est tous différents et importants. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens.
Alors, votre vocation de musicien s'est donc dessinée rapidement. On l'a vu, Gilbert Montagné. Il y a eu quand même quelque chose qui, je pense, a été très important pour vous. Ça a été notamment ces premiers voyages aux États-Unis et notamment, je crois, en 1967 à Atlantic City, où là, tout d'un coup, vous avez découvert un autre monde musical qui a changé peut-être ce qu'aurait été le destin d'un jeune élève de Gaston Litaise.
Et Jean Langlais.
Et Jean Langlais.
Mais incroyable, parce que, en fait, tout d'un coup, j'arrive aux États-Unis dans ma famille, chez ma tante et ma sœur qui étaient là-bas, à Philadelphie, tout près d'Atlantic City, comme vous le dites, et tout d'un coup, je passe la première nuit comme un dingue à écouter les radios, les soul radio, la musique que j'aimais, mais qu'on entendait très très peu en France. Fallait faire de grands efforts pour écouter ça, pour trouver les disques. J'allais exprès en métro, tout seul, je faisais deux changements, et je trouvais Lido Musique aux Champs-Élysées. Fallait que je trouve la bonne sortie, déjà, Franklin Roosevelt. Et puis après, fallait que je trouve le magasin. Et après, fallait que je ramène les... Ça coûtait 6,50 francs à l'époque.
À 45 tours.
Mais je vous ai coupé.
Non, pas du tout. Votre découverte donc de l'Amérique. Alors, et de la musique soul, c'est très important.
Tout d'un coup, il y a ma famille qui me dit « Regarde, il y a une affiche, il y a un concours amateur, il faut absolument que tu te présentes. » Mais moi, je ne voulais pas spécialement. J'étais en vacances. Vous voyez, donc, j'aurais dit, ça vous fait plaisir. Et je suis allé. Il y avait un mec qui s'appelait Tony Grant. Et ça s'appelait The Stars of Tomorrow. Les vedettes de demain. Et il m'a dit, si vous voulez, venez demain après-midi. Vous passez devant 5000 personnes. Bon, je lui ai dit, OK. Donc, je suis arrivé le lendemain. Et en fait, j'ai, entre nous, j'ai fait un carton ce jour-là.
Voilà.
Ça veut dire que ça a vraiment marché, quoi.
Dans une chanson de, d'Otis Redding, non?
D'une chanson d'Otis Redding, mais je chantais la version en français,
en français
de Johnny.
Ah voilà.
De mon Johnny, aussi dur que du
voilà,
bois.
Voilà.
Alors que les gens, les Américains, n'avaient rien à foutre de la version en français. Mais ça, vraiment, ça l'a fait. Et ça a allumé cette petite étincelle en disant, mais t'as raison de croire au possible.
Voilà.
Parce que j'ai toujours imaginé depuis longtemps être sur scène en tant que musicien. Pas spécialement devant, mais je me suis toujours imaginé sur scène. Et je me suis dit, ok, ça veut dire que tu peux le faire, donc essaye.
Ouais.
Et je voulais rester aux États-Unis, j'avais pourtant décroché un contrat avec un orchestre qui faisait le tour des universités, immédiatement, ils m'ont dit, d'accord, on s'en va, on y va. Mais ma famille voulait ou pouvait pas me soutenir financièrement. Donc je suis revenu le blues dans l'âme en France. Mais Benoît, je ne me suis pas laissé faire. Dès le lendemain, j'ai pris le téléphone du bureau de maman, où elle travaillait, puisque nous, on ne l'avait pas. Et puis j'ai commencé à appeler les maisons de disques, essayer d'avoir une audition.
Et donc, c'est comme ça, par exemple, que vous avez rencontré Eddie Barclay, je crois,
hein,
mais c'était pas très concluant encore.
Ben non, Eddie, il a dit, je vais jouer I've Been Loving You d'Otis Redding. Et il a dit, après des mois d'attente pour l'audition, il a dit, oh le petit, c'est bien, mais il n'est pas prêt encore. Oh, alors ça m'a fait de la peine quand même sur le moment. Mais j'ai repris mon métro vers la station Jourdain et je me suis dit, bah, je vais essayer autre chose, je vais continuer. Mes recherches. Mais ça a été, finalement, je dis que ça a été long, mais ça a été très rapide quand on y pense. Parce que j'ai commencé, j'avais à peu près 16 ans et demi. Parce que The Fool, qu'on vient d'écouter tout à l'heure, je l'ai écrit à 16 ans, en fait. Sur un petit chemin de campagne.
Enfin, ouais. Ça. En anglais directement.
Alors, moi, j'ai écrit d'abord la mélodie. Non
ouais.
J'avais que la mélodie. Et le truc, c'est que j'avais pas de cassette, j'avais pas de piano, j'avais rien du tout, évidemment. J'étais sur un petit chemin. Voilà. Et je m'en suis souvenu. Et ça, c'est un petit miracle.
Alors, si on écoutait ben justement, tiens, un petit peu de musique américaine parmi celles qui vous ont sans doute marqué à cette époque.
Keep them slow. avant toute chose, j'aimerais savoir quelles sont les questions que tu n'aimes pas qu'on te pose.
Les questions que je préfère pas qu'on me pose, admettons, est-ce que, enfin, quand on me parle de Ray Charles, mais qu'on me fait sentir que, enfin, ça m'est déjà arrivé, on voudrait me faire dire que je le copie ou un truc comme ça, alors que je ne pense pas du tout. Moi, j'adore Ray Charles, et c'est vraiment très très profond, mais je pense à, j'apporte enfin quelque chose de moi-même, j'essaie je pense pas du tout que je le copie, donc qu'on dise que j'ai été influencé par lui est une chose, de toute façon qu'il ne faut pas dédaigner. Influencer, ça veut dire qu'on a assez aimé la musique, sa musique, pour s'en inspirer un peu, mais je crois que c'est très différent de la copie quand même.
Bon, autre question que tu n'aimes pas qu'on te pose. Comme ça, on s'en débarrasse tout de suite en début d'émission.
Ah oui. Est-ce que la musique, pour moi, est un refuge? Ça, c'est très drôle, je trouve. Parce que, pas du tout. Enfin, on pourrait croire, évidemment, que...
Une compensation.
Oui, à une compensation, c'est beaucoup plus juste, bien sûr. Mais un refuge, ça voudrait dire que je veuille me cacher derrière la musique alors que j'ai absolument rien à cacher.
Voilà, ça c'était en 1972, Gilbert Montagné, vous étiez avec Albert Reissner.
C'est ça, hein.
C'est une grande émission qui vous était consacrée un an après The Fool.
Oui.
Et alors, évidemment, il y a toujours cette association un peu facile avec Ray Charles, même si vous l'adorez, puisque vous avez choisi le morceau qu'on a écouté juste auparavant.
Oui, Ray, quand même, il a fait partie des deux personnes qui nous ont ouvert les portes du possible à nous, aveugles, on va dire. Louis Braille. Et Ray Charles.
Ah oui, carrément, vous les associez tous les deux.
Oui,
comme ça,
parce que c'était les deux mecs dans le monde qu'on respectait, finalement. C'est vrai. Et alors après, il y a eu Stevie, puis il y a eu d'autres. Mais Ray, imaginez le plaisir que j'ai eu à le rencontrer, quoi. Ça a été merveilleux. Ça a été juste merveilleux.
J'imagine. Vous avez, après ce séjour aux États-Unis, la rencontre d'Eddie Barclay, enregistré un premier disque sous le pseudonyme de Laure Thomas, hein.
Oui, parce qu'ils avaient dit que les producteurs de l'époque, Gilbert Montagné, c'est pas bien comme nom, ça peut
pas
marcher.
Ça peut pas marcher. Alors que Laure Thomas, ça allait faire un tabac.
Ouais.
Ça a pas été le cas, hein.
Ça a rien fait du tout, en fait.
rien du tout.
J'ai fait une télé un 15 août à 12h30, donc comme ça, t'es sûr que personne regarde. Mais enfin, moi, je m'en foutais parce que c'était mon premier contrat, qui était un contrat pourri d'ailleurs, et donc c'était pas un problème. Voilà.
Et alors, du coup, vous êtes reparti aux États-Unis, mais alors la seule question que je me suis posée, parce
dites-moi,
que
Benoît,
il a joué un rôle important, pourquoi donc est-ce que Salvatore Adamo vous a appelé pour vous dire de rentrer? Vous avez repéré comment?
Mais moi non plus, j'en sais rien, je vais vous raconter. C'est que j'étais en vacances pendant 3 semaines en France, puisque j'habitais déjà aux États-Unis. Là, on est en 1960, fin 69, début 70.
Ouais.
Et je vais accompagner un ami à moi qui s'appelle André Georget, j'essaie d'être plus rapide.
On va en parler
rapide.
D'ailleurs de Georget.
Voilà, et il avait fait une chanson pour Hugo Frey, « Je voudrais mourir avant toi ». Donc il me dit « Tu veux pas venir faire le clavier ?» Ça me ferait plaisir, on le présente dans une maison d'édition, chez Flèche, maison de Claude François.
Uh-huh.
Et là, la jeune femme qui s'occupe de l'artistique, elle me dit « Mais vous aviez fait un disque, vous, avant ?» Alors j'étais vert parce que, comment elle le savait, puisque ça avait tellement pas marché. Je lui dis oui, c'est vrai, oui. Et elle me dit, vous n'avez pas des chansons? Je lui dis, si. Mais je lui dis, je vous le dis tout de suite, je ne les chanterai pas en France parce que je repars dans 3 jours. Mais si vous les donnez à quelqu'un, vous chantez, oui.
Voilà.
Et donc elle me fait immédiatement marcher fonctionner un magnétophone. Et je mets des mélodies, dont
The Fool.
Et il y a quelqu'un qui travaille pour Salvatore,
qui à l'époque faisait de la production, Adamo. Hein, voilà.
Moi, je ne savais pas.
Ouais.
Et le soir même, il téléphone à la maison, parce qu'entre-temps, on avait le téléphone quand même à Paris.
Ouais.
Et il dit, voilà, Salvatore veut vous produire. Moi, vous savez, j'étais déjà méfiant, hein, parce que j'avais déjà eu cette mauvaise aventure avant. Je lui dis, oui, bah écoutez, c'est très bien, mais je repars dans 3 jours. Mais vous rendez pas compte, c'est Salvatore Adamo. Je m'en vais, là, je suis parti. Et la première fois et seule fois de ma vie, Benoît, que j'ai raté un avion. Ça m'est jamais arrivé depuis. J'ai pas entendu le réveil, et mes parents m'ont pas réveillé. Enfin, mais, obstiné, je me suis dit, je vais reprendre le charter qui est la semaine prochaine. Je vais pas perdre mon billet quand même, donc j'ai convaincu la compagnie. Mais par correction, le lendemain, je suis allé rencontrer Salvatore Adamo. Voilà.
Et donc ça a été finalement un peu un acte manqué, ce réveil qui a pas sonné. Hein.
Mais complètement. Mais alors Salvatore, je lui ai dit, bah écoute, voilà mon numéro en Floride. Si tu veux me rappeler, tu m'appelles. Moi, j'étais sûr que personne ne me rappellerait jamais. Mais ils m'ont rappelé.
Et ils vous ont rappelé.
Ah,
et
oui.
C'était, on peut dire déjà, votre bonne étoile.
Absolument.
Thank you.
Voilà, alors l'étoile dans votre vie, en l'occurrence en 1996, c'est, quand vous avez enregistré cette chanson, c'était pas Salvatore Adamo, mais c'était plutôt Nicole, je crois, hein, Gilbert
Montagnier. Ouais, Nicole, qui est maintenant mon épouse depuis plus de 22 ans maintenant.
Voilà.
Et c'est vrai que elle, là-bas des montagnes, dans le sens où on s'est reconstruit ensemble,
ouais.
Puisqu'on venait tous les deux de couples qui s'étaient disloqués.
Ouais.
Et y a rien de plus beau que la reconstruction. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Non seulement mon épouse, mais une personne vraiment exceptionnelle.
Voilà, qu'on a le plaisir d'accueillir d'ailleurs aussi ce matin avec vous.
Personne fantastique, quoi, je veux dire. Parce qu'on arrive, nous deux, à faire la part de mari et femme, et puis quand on travaille, quoi.
Voilà.
Ça n'a rien à voir. Donc j'ai une formule que j'aime bien. C'est moi, je m'amuse et Nicole travaille. Voilà, comme ça, c'est clair.
Alors, il y a une autre étoile, pas dans le même registre, mais dans votre vie quand même. Peut-être c'est un peu exagéré, mais vous avez cité son nom tout à l'heure, André Georget.
Oui.
Georget, c'est un complice très important depuis vos tout débuts, hein, qui était arrangeur. On lui doit beaucoup de musique aussi pour la publicité.
Absolument.
C'est un musicien tout terrain.
Mais absolument.
Parlez-nous un peu d'André Georget.
Ah, André Georget, moi je l'appelle ma dédoche. Voilà, c'est la dédoche. Alors, on s'est connus au tout premier disque sous l'Orthoma. Ouais. Il faisait déjà les arrangements.
Voilà.
Et on a tout de suite sympathisé. On faisait une petite bande avec André et avec Bachung.
Ah oui.
Bachung a été celui qui m'a emmené pour la première fois dans un restaurant, parce que nous on n'avait pas les moyens jusque-là. Et on s'entendait très très bien, et André, on est toujours amis bien sûr. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait des albums, j'ai même fait musicien de séance pour pas mal de pubs.
Oui, c'est ça, vous avez chanté dans des pubs. Hein.
Chanté notamment, c'est vrai, oui, j'ai chanté pour Coca-Cola.
Ricoré,
Coca-Cola, le lait concentré sucré.
Ah oui, ah ouais, ouais.
Vous savez, moi, j'aime bien le challenge d'arriver dans le studio et de pas du tout savoir ce qu'on va me demander de jouer. Uh-huh. Et j'ai la chance, si vous voulez, de pouvoir écouter quelque chose une fois et pouvoir le reproduire tout de suite avec les bonnes harmonies. Ouais. C'est pas un effort pour moi, quoi. C'est naturel.
Alors, toutes les années qui ont suivi le grand succès de The Fool, Gilbert Montagnier, ont été marquées par de nouveaux disques, de nouvelles chansons, des nouveaux succès. Et puis, à un moment donné, il y a eu une espèce de creux avant que tout ne ressurgisse de façon encore plus extraordinaire. Mais il y a eu un moment difficile. Comment ça s'est passé?
C'est comme les rues de Paris, il y a des nids de poules. Hein, donc, il y a des succès. Et puis des échecs.
Voilà.
Mais qu'est-ce que vous voulez, des fois. Alors, il est évident, Benoît, que. Bien sûr que ça fait de la peine quand on enregistre une chanson puis qu'elle n'a pas le succès escompté.
Ouais, ouais.
Mais pourquoi ça fait de la peine? Parce que c'est tellement une joie d'avoir un succès ou d'être sur scène.
Ouais.
Et pour ceux qui voudraient chanter ou faire ce métier-là, il faut prendre le total, il faut prendre le package. On ne peut pas dire je prends que le positif et puis je pousse le négatif au coin.
Mais alors le retour des succès colossaux en 1984 avec l'album Liberté, comment vous l'expliquez? C'est le goût du public qui a changé, c'est la rencontre aussi avec notre cher Barbet Livien,
c'est tout ça,
un ensemble de choses comme
c'est
ça.
C'est tout ça avec mon Claude Lemel, Didier Barbet Livien. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a un producteur italien qui s'est intéressé à moi, dans le sens où j'étais en France.
Ouais.
Alors, quand j'approchais des compagnies de disques, On me disait, oui, non, mais,
The voilà, Fool, et puis c'est fini.
T'as beaucoup de talent et tout, ça c'est vrai. Mais t'as rien vendu l'an dernier, ah, oui, donc on peut pas te signer, ah, parce que tu comprends, c'est difficile de réinstaller quelqu'un, enfin que des conneries quoi. Donc lui, bah, il a fait abstraction de ça, Freddy Nadjar, et il y a cru, et on a enregistré tous ses titres avec bonheur. Mais là encore, j'étais pas sûr.
Que ça allait marcher comme
ben
ça.
Non, du tout. Hein.
On va s'aimer, les Sèvres et des Tropiques, tout ça, mais des méga tubes quand même.
Ouais, alors les Sonates, je suis fier parce que c'est moi qui insistais pour le faire. Hein.
Ah, ouais, ouais.
Pour une fois, je m'étais pas gouré.
Et les arrangements de ce disque
Par Stefano Pulga en Italie, on a tout enregistré
c'est
en Italie.
C'est lui qui a donné la couleur, disons.
Absolument. Ouais. Enfin, disons que je les ai aidés quand même beaucoup oui, avec ça, mais c'est vrai que c'est lui qui a parfait tout ça. Et on avait fini l'album. Et moi, je voulais vraiment faire les Sonates des Tropiques. Et mon producteur de l'époque me dit, oh non, tu crois, bah, si vraiment. Alors, pour me faire plaisir, il me dit, écoute,
on va rajouter
une journée d'enregistrement, fais ton Sonates des Tropiques, et puis voilà. Et on a appelé le Didier Barbelivien en pleine nuit. À l'époque, on n'avait pas le net, on n'avait rien. Donc, je lui ai fait entendre
Téléphone.
Mais oui, par téléphone. Et puis, lui, il l'a pris en cassette, en enregistrement. Et puis, il a pondu le texte.
Moi, je lui dans dis, la
c'est...
nuit.
Ah ben oui, je lui dis c'est pour avant-hier, donc quand tu veux. Hein. On a chanté ça et c'est un plaisir.
Je crois que les auditeurs seraient pas contents si je leur proposais pas quand même un petit medley de ces deux méga tubes.
Allez, pourquoi pas.
Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser.
Question traditionnelle, Gilbert Montagnier, ça vous agace pas à la longue qu'on vous ressorte évidemment forcément ces tubes que tout le monde connaît, que tout le monde aime, que tout le monde fredonne.
Faudrait vraiment que je sois d'une mauvaise foi incroyable, parce que non, pas du tout, je vis très bien avec tout ça.
Avec le succès.
Ouais, vraiment, voilà. J'aime le public, je vis très bien avec mes chansons. Et des fois, Nicole me dit ça, ouais, mais écoute, franchement, non, moi j'aime bien. Et j'aime bien voir les gens s'éclater.
Aujourd'hui, ces chansons, elles sont dans toutes les fêtes. Hein.
Ouais, c'est vraiment un beau cadeau quoi, que le public me fait depuis 50 ans, avec des hauts et des bas, mais eux, ils ont toujours été là.
Pourquoi vous avez fait votre premier succès en anglais?
Oui.
Ceux-là sont en français. Vous avez toujours chanté d'ailleurs dans les deux langues.
Oui.
C'est en fonction de quoi, j'ai envie de dire
Parce que je suis toujours divisé entre les deux.
Oui.
J'aurais toujours un côté de l'âme aux États-Unis et un côté de l'âme à Ménilmontant.
Ah oui, c'est ça, oui.
Eh ben oui, je suis tout ça à la fois. Tout ça à la fois.
Et puis alors, il y a une chose qui m'a bien plu quand je relisais des articles ou des biographies de vous. Eh bien, c'est Gilbert Montagnier que vous avez toujours aussi continué on a l'impression à faire de la musique par plaisir et pas seulement des albums et des tubes et des, à chanter dans des séances, à faire le choriste, oui. Même pour des amis,
bien
etc.
Sûr,
vous avez toujours cette gourmandise de faire de la musique, de jouer de la musique avec les autres.
Absolument, c'est pour ça que je dis souvent que même quand le public aura décidé que je devrais peut-être m'arrêter, moi je ferai toujours de la musique, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est, j'ai souvent ça aux gens. Nous, on n'est pas à la retraite, c'est le public qui te met à la retraite, mais sinon, on est là. Quoi.
Mais cette gourmandise, alors elle est allée aussi jusqu'au fait d'enregistrer beaucoup de chansons d'autres chanteurs. Hein. Vous aimez bien reprendre Johnny, Julien Clerc, tous ceux que vous aimez, etc.
J'adore
vous avez fait beaucoup de chansons comme ça.
J'adore ça. D'ailleurs, sur scène en ce moment, j'ai un medley sur Whitney Houston.
Ouais.
Je fais deux titres de Whitney Houston parce qu'elle me manque beaucoup.
Ouais.
Voilà, une fille qui chantait très très bien. Parce que chanter, c'est important. Ouais. Chanter, ça doit être considéré aussi naturellement que respirer.
Ouais.
Mais moi, j'ai besoin d'être bouleversé quand j'entends quelqu'un qui chante. Ouais. Il peut y avoir des textes fantastiques, mais si ça ne chante pas, moi, ça ne me fait rien du tout.
Ouais. Voilà. Il y a quelque chose, c'est le mystère de la voix, évidemment.
Ben oui, c'est fantastique. Les cordes vocales. Imaginez ce que c'est, les cordes vocales. C'est extraordinaire.
Parmi vos proches, ceux que vous avez aimés, ceux qui vous ont aidé à un moment donné, on aurait pu citer évidemment encore Julien Clerc qui vous a fait faire votre première Olympia.
Absolument. Hein.
Vous avez repris ses chansons aussi d'ailleurs.
Oui.
Johnny.
Ah non, Johnny. Ça, c'est vraiment... C'est lui qui m'a... Lui et Eddie Mitchell, du côté français, m'ont influencé quand j'étais petit.
Ouais.
J'avais envie de chanter. Et imaginez que j'ai pu être à ses côtés et puis jouer avec lui et puis lui dire et puis voilà, c'est quelqu'un qui me manque énormément.
Ouais. Et puis alors quelqu'un qui est beaucoup moins à la mode mais que moi j'aime beaucoup parce que c'est un grand monsieur aussi, Gilbert Bécaud.
Ah bah ouais, moi aussi. Moi aussi parce que le Gilbert lui aussi, il m'a touché quand j'étais petit d'entendre sa musique, je le ressentais tout ça.
Ouais.
Et imaginez qu'un jour il m'appelle et il me dit écoute, j'ai une mélodie, j'aimerais bien qu'on fasse cette chanson à deux. Alors j'étais super flatté quand même, hein, honoré. Je lui dis, j'arrive. Et puis on est arrivé l'après-midi, il m'a joué cette chanson.
Quand on est musicien.
Et nos plannings ont fait qu'on ne pouvait pas finalement faire comme on voulait. Mais on a retrouvé la cassette de notre entretien dans cet après-midi-là. Et on s'en est servi pour l'intégrer dans la chanson.
Un disque aussi que vous avez consacré à Bécaud.
Ah ouais, hein, quelle merveille pour moi de faire ça. Tout un album, moi, Gilbert chante Bécaud. Vous l'avez peut-être, la chanson là.
Bien sûr, on va l'écouter, mais pourquoi Bécaud est si passé de mode aujourd'hui?
Alors là, je ne sais pas du tout, je ne comprends pas, parce
c'est
que
injuste.
C'est totalement injuste. Ouais. Mais personne ne nous a dit que le monde était juste.
Voilà.
Donc il n'y a pas de problème. Toi qui sais et qui vois des choses que je ne vois pas, raconte-les-moi. Toi qui me donnes la main pour traverser le chemin, pour dire quand c'est beau. Est-ce que t'as les mots? Toi qui vois autrement, dis-moi comment c'est dedans. C'est sûrement plus grand. Toi qui sais des merveilles, je remplace le soleil, fais-moi un cadeau, donne-moi tes mots. J'ai les mêmes mots que toi, mais d'une autre couleur. Quand je les sens sous mes doigts, c'est beau dans le cœur. Non. Le sens est que quand on en a besoin, sans mesure et sans limite, c'est le salut univers quand on est plus.
Gilbert Bécaud et Gilbert Montagnier, les deux Gilbert. Hein. Vous aux multiples claviers en plus de la voix, Gilbert Montagnier, dans cette chanson, quand on est musicien, une rencontre presque vraie et si joliment réalisée.
Magique, c'est en fait survoler tant d'émotions et ça me fait réaliser que, bah, que depuis 50 ans, je veux dire, j'ai énormément de chance de vivre tous ces bonheurs, vraiment.
Et nous, malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Je suis bien triste, Gilbert Montagnier. Oui. Oh là là.
Eh, mais c'était un beau moment avec vous, en tout cas.
Ben oui, vraiment. Pour moi aussi. Dis, hein. La politique, ça vous intéresse encore? Les engagements,
les engagements,
notamment
ouais.
par rapport aux questions que vous connaissez bien.
Oui. Le meilleur accès pour les personnes handicapées et une meilleure dignité. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. Ouais. C'est qu'on veut que ceux qui touchent pour l'instant la hache, qui est la pension adulte handicapé, qui est donnée à tous ceux qui ne peuvent pas faire autre chose, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, qui n'ont aucun moyen de subsister, leur soit ôtée s'ils vivent avec quelqu'un. S'ils vivent avec quelqu'un qui gagne plus qu'eux, eh ben c'est fini, ils n'ont plus rien. Et ça, c'est pas possible que le gouvernement, que je respecte, laisse faire. Ouais. Il faut pas faire ça, c'est une honte à notre patrie et à notre patrimoine culturel et à notre patrimoine humain. Donc, si vous m'écoutez, vous qui avez le pouvoir, c'est pas grave, vous vous êtes trompé, c'est pas grave, on l'a refait, voilà, voilà. C'est tout.
Et vous êtes prêt à vous battre, on l'a compris,
oui, bien sûr.
Gilbert Montagnier. Merci d'avoir été avec nous pour la ressortie donc de The Fool, 50 ans après. C'était l'occasion de revenir un peu sur votre histoire, sur vos débuts, sur votre itinéraire de musicien. On va se quitter avec une autre chanson de l'album. Ça fait un peu bizarre de se quitter avec un titre pareil. Il me reste très peu de temps parce que vous êtes en pleine forme, je rassure tout le monde.
Oui, ça va très bien.
Mais je sais que vous aimez bien cette chanson,
beaucoup.
Alors je me suis dit...
C'était écrit aussi par Michel Jonas. Et j'aime beaucoup cette chanson et mon père aimait beaucoup cette chanson. En tout cas, moi j'ai passé un merveilleux moment et appréciez la vie, vous qui nous écoutez. Il faut apprécier la vie, même quand on a des galères et tout ça. Il faut vraiment apprécier la vie, c'est très important parce que ça nous a été donné, comme on disait Ménil Montand, pour pas un rond. Voilà.
Merci Gilbert Montagnier et à bientôt.
Bye Benoît, au revoir.
Il me reste très peu de temps pour vous dire que j'aimais tant vivre auprès de vous. Il me reste très peu de temps, je vais partir pour très longtemps, très loin de vous. Ma mère ne pleure pas, pense encore à toi. Il me reste très peu de temps, quelque part une fille m'attend, je dois la retrouver. Il me reste très peu de temps, déjà c'est le printemps. Père, ne pleure pas, ton fils pense encore à toi.
Et voilà donc en avant-première sur France Musique un extrait de cet album The Fool de Gilbert Montagnier, réédité, remasterisé, 50 ans après sa parution. C'est pourquoi j'étais si heureux de recevoir ce matin Gilbert Montagnier. Vous trouverez toutes les informations sur son actualité sur le site gilbertmontagnier.com.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et maintenant, c'est l'heure de la musique légère. Que je l'aime, ce petit indicatif extrait du ballet La Favorite de Donizetti sous la direction d'Antonio de Almeida. Et vous le savez, j'essaie de faire mieux connaître toutes ces musiques de ballet du 19e siècle qui composent à elles tout ensemble un répertoire fabuleux. Il sera à l'honneur désormais dans la deuxième partie de l'émission avec beaucoup d'autres musiques, puisque la première partie maintenant c'est l'invité, la deuxième partie c'est la musique légère, c'est-à-dire l'opérette, la musique symphonique légère, la musique de danse, la chanson, et puis aussi bien sûr la musique légère récréative, chère à notre regretté Pierre-Marcel Ander. Alors, puisqu'on est au mois de septembre, le mois des bonnes promenades en forêt, écoutons donc Le Siffleur et son chien par Mario Juilliard. Voilà, nous avons heureusement le 78 tours d'origine dans notre belle discothèque de Radio France. C'était Mario Juilliard, le roi des siffleurs dans Le Siffleur et son chien. Et puis je voudrais aussi donc vous faire entendre un peu d'opérette ce matin, et notamment une opérette que j'adore, Là-haut de Maurice Yvain, dont j'entends dire qu'elle sera reprise avec orchestre à l'Athénée l'année prochaine, et c'est pour moi une grande nouvelle. Mais je crois également pouvoir vous annoncer que dès la semaine prochaine, dans un petit théâtre parisien, on pourra voir une version donnée par l'excellente compagnie Fortunio. Alors, l'occasion de célébrer là-haut cette opérette qui se déroule au paradis, le paradis où vient d'arriver le héros, et il trouve que c'est pas mal le paradis dans cette opérette de 1923, mais il préfère quand même le vrai Paris des années folles, qui est pour lui le seul paradis.
Votre
firmament. C'est très gentil, c'est charmant, plein d'agréments. On y sent flotter une odeur de sainteté, de propreté. C'est bien épousté, on nage dans le bleu. On a des confets, un vœu, tout ce qu'on veut. C'est très épatant, le ciel n'a pas son pendant. Et cependant, le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Quelle est la terre que Moïse promit? C'est Paris. Sa force est tellement vitale que dans cette capitale, tous les plus petits, les péchés si tôt, deviennent péchés capitaux. Qu'est-ce que d'abord Sainte-Geneviève défendit? C'est Paris qui a converti le bon roi Henri. C'est Paris, lui seul vaut toutes les messes, lui seul tient toutes les promesses. Moi je vous le dis, comme paradis, il n'est rien de mieux que Paris. Mais sans plaisanter, j'ai peur à trop le vanter, de vous tenter. Voyez-vous qu'un jour, là du céleste séjour, vous filiez pour y faire un petit tour. Et l'ayant connu, que vous disiez résolu, je ne remonte plus. Et pourtant je voudrais vous peindre même à grands traits tous ces attraits. Qu'est-ce qui possède l'opéra, les Tuileries? C'est Paris. Le printemps, la Samarre, les galeries, c'est Paris. Quelle promenade idéale, quelle avenue triomphale, pourrait s'aviser de rivaliser avec nos Champs-Élysées, où le ciel reste bleu par un temps gris, c'est Paris. Où les nuages sont en poudre de riz, c'est Paris. Qui rend les femmes si belles et met au fond de leurs prunelles ce charme infini, ce sourire exquis. Ne cherchez pas, c'est Paris.
Et c'était Médonia dans cet enregistrement de 1968 qui joue donc le rôle du héros de là-haut fraîchement arrivé au paradis. Nous avons heureusement à Radio France plusieurs enregistrements de cette opérette trop oubliée, ce petit fleuron de la musique des années 20 signé Maurice Yvain. 2 ans avant, il avait donné sa première grande opérette Tabouche. Et dans là-haut, il est allié à Albert Wilmette, l'excellent Wilmette qui en profite justement pour s'amuser sur les ressemblances entre le paradis et les folies bergères. Par exemple, quand il faut délurer une petite dame qui s'appelle Anna, eh bien il écrit des couplets qui s'appellent « Ose Anna ».
Il y avait un jour une petite fille, très docile, très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa, qui répondait au nom d'Anna. Mais hélas, quoi qu'on fasse ou qu'on dise, elle était tellement indécise et manquait tant de volonté qu'on cessait de lui répéter « Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle cause, Anna ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, méfie-toi. Et crois-moi, à force de lambiner, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Sitôt sa mort, cela va sans dire, ayant fini sa vie de martyr, Saint Anna près du bon Dieu bondit directement au paradis. Mais devant la porte, la pauvrette n'osa pas toucher à la sonnette. Alors, afin qu'elle sonnât, tout le paradis entonna
« Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Parle, ose, Anna, ose, dis quelque chose.
«
Hosanna au plus haut des cieux, c'est-à-dire au paradis, c'est-à-dire au casino de Paris, parce que tout ça se ressemble beaucoup. Dans là-haut, l'excellente opérette donc de Maurice Yvain sur des couplets d'Albert Villemetz. Alors, après le paradis, le deuxième acte se passe sur Terre, où redescend le protagoniste avec son ange gardien pour aller vérifier que sa femme ne le trompe pas. Et ça donne donc tout le second acte. Et puis, à la fin du second acte, il faut remonter au paradis. Et ils ont un peu bu, ils ont oublié que l'heure était passée, l'heure que leur avait donné le grand Saint-Pierre, d'où ce trio très joliment fait, vous verrez rythmiquement, avec ses noirs, ses croches, ses doubles croches, ses triolets, alternativement, est chanté donc par les trois protagonistes de là-haut, il est minuit.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit. Si est endormi, je parie un louis qu'il est minuit.
Si je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici paraît endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de louis, avec vous et lui sans parti pris, qu'il n'est pas minuit.
Eh bien, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie 200 louis. Si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Il vous dit que tout est endormi, c'est faux, car tout est endormi, hormis vous trois, mes amis.
Oui, tout est.
Mais si monsieur crie et fait du bruit,
est endormi.
En dépit de la nuit, je ferai comme lui.
Il est minuit.
Moi, je n'admets pas les montres qui avancent, ni les gens qui nient et qui parient. J'ai pas fini. Et parie 200 louis, c'est inouï, alors qu'ils n'ont pas un radis, uniquement parce que ça m'ennuie qu'il soit déjà plus de minuit.
Eh bien, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie 200 louis. Si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Si je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici paraît endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de louis, avec vous et lui sans parti pris, qu'il n'est pas minuit, je le dis.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit, tout ici est endormi. Mes amis, il est minuit.
Mais je viens d'y penser depuis que l'on a commencé.
C'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé.
Minuit passé.
Mais je viens d'y penser depuis que l'on a commencé.
C'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé.
Minuit passé.
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 Minuit passé.
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 Minuit
passé.
Minuit passé.
Et comme il est minuit passé, l'ange gardien Frisotin va emmener tout le monde pour retourner au paradis, tout le monde à sa suite avec une technique qu'il va nous expliquer. Malheureusement, les bons enregistrements musicaux de la radio ont coupé souvent trop cet extrait et je suis retourné à un enregistrement amateur donné au Célestin à Lyon il y a quelques années qui n'est peut-être pas musicalement impeccable mais qui a beaucoup d'énergie pour ce final du deuxième acte de là-haut.
Pourquoi partez-vous si vite ?
Parce que...
Dites-moi la raison, dites.
Parce que...
Oh, une raison, une toute petite.
Parce que...
Sois si permet que je lui dise un petit peu.
Pourquoi partez-vous si vite ?
Parce que...
Dites-nous la raison, dites.
Parce que...
Puisqu'elle le désire, eh bien je vais leur dire. Eh bien c'est mon Dieu, parce que...
Parce que...
Il faut lui nuire à elle, il faut que j'en monte au ciel.
Laisse-moi partir aussi vite, on doit suivre son mari.
Je vous emmène.
Et moi, sans ma cousine germaine, que voulez-vous que je devienne?
Je vous emmène.
Et moi, la bonne toulousaine, je n'ai plus qu'à me jeter dans la Seine.
Je vous emmène.
Nous ne sommes qu'une demi-douzaine, faites-nous profiter de l'aubaine.
Je vous emmène.
Mais comment pour remonter allons-nous faire?
Cela, c'est mon affaire, vous n'avez qu'à m'imiter.
le vol aérien, regardez bien cela derrière. L'important pour voler, c'est de bien décoller, mais sans décollant pour que nous prenions de l'élan. Prenons, c'est plus prudent, un petit banc. Avec de la volonté, il suffit de contracter ses côtes, les deux poings aux côtés. Et puis avec légèreté, il faut tout le temps répéter, je saute, je saute, je saute et vous sautez.
C'était très excellent, mais pour prendre notre élan, c'est lent. Je crois qu'un petit banc, ça n'est pas suffisant pour faire des sauts qui soient un peu plus colossaux. J'estime qu'il vaudrait mieux un escabeau. Avec de la volonté, il suffit de contracter ses côtes, les deux poings aux côtés. Et puis avec légèreté, il faut tout le temps répéter, je saute, je saute, je saute et vous sautez.
Avec de la volonté, il suffit de contracter ses côtes, les deux poings aux côtés. Et puis avec légèreté, il faut tout le temps répéter, je saute, je saute, je saute et vous sautez. Avec de la volonté, il suffit de contracter ses côtes, les deux poings aux côtés.
Jean-Paul Lucet, Manon Landowski, Patrick Hautecoeur dans cette version de Là-haut enregistrée en 1997, une opérette à redécouvrir en tout petit format mais par une excellente troupe à l'Auguste Théâtre à Paris du 8 au 12 septembre.
Geh ich am Morgen früh schon aus dem Haus, sehen zwei blanke Äuglein traurig aus, und kaum dass ich die Arbeit dann begann, ruft sie schon an. Komm ich nach Hause, muss ich Dinge drehen, Purzelbäume schlagen, auf dem Kopfe stehen. Lieg ich am Boden, ganz und gar K.O., dann ruft sie froh. Ja, ja, ich hab ein Töchterlein, das findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr sucht. Fips, Bim und Klärchen kenne ich genau, 99 Märchen spiele mit Radau. Doch dass dabei auch mal die Laune bricht, begreift sie nicht. Skat oder Kegeln gibt's für mich nicht mehr, mein Platz am Stammtisch ist seit langem leer. Geh ich zum Fußball, will sie mit mir gehen und alles sehen. Ja, ja, ich hab ein Töchterlein, das findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr Superstar. Wenn der Mond erwacht, nimmt sie ihr Püppchen und sagt gute Nacht. Greif ich erschöpft dann zu der Flasche Bier, sagt sie zu mir.
Also Brot, liebe Bett, auch Bier trinke.
Ja, ja, ich hab ein Töchterlein, das findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr Superstar.
Elisabeth, wer ist der Beste?
Voilà, le twist à l'allemande, ça s'appelle Willy Brandes und die kleine Elisabeth dans Baby Twist, un enregistrement des années 60 qu'on retrouve dans un disque amusant qui vient de paraître, ça s'appelle Blind Test par Jean-Baptiste Merciol, des morceaux surprenants enregistrés entre 1941 et 1962, des morceaux très drôles souvent, et ça vient de sortir chez Frémo et Associés, vous y retrouverez aussi par exemple Louis de Funès et Robert Derry, ou encore Henri Salvador avec Quincy Jones et beaucoup d'autres petites pépites, ça vient de sortir chez Frémo et Associés, Blind Test et Surprenant 1941-1962. On se quitte avec le merveilleux ballet d'Isoline d'André Messager. Ça, c'est la musique symphonique que je vous ai promise et la musique de danse par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction de Louis Fourestier.
Thank you.
Pavane, Mazurka, scène de la séduction et valse, c'était le ballet d'Isoline d'André Messager par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction de Louis Forestier. Cette émission de rentrée d'Étonnez-moi Benoît vous était proposée avec le concours d'Annie Comier, Youtou Diego, Haklopes, Maël Larifassour et bien sûr Christine Amado. Samedi prochain, je recevrai Marc Jolivet. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.